Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps.
Un voyage très précis même.
Oui, très précis. On part dans une seule ville, Rodez, et sur une seule année, 1925.
C'est ça. L'idée, c'est de voir comment une ville française vivait 7 ans après la fin de la Grande Guerre.
De prendre son pouls en quelque sorte, voir comment elle respire, comment elle se souvient, et surtout comment elle recommence à vivre.
Exactement.
Et pour cette plongée, on a une source vraiment formidable. C'est un article de Gilbert Rogour.
Oui, publié dans le bulletin du Cartoclub Aveyronnais. Un travail de fond.
Et il faut vraiment saluer la mise en page de Guy Mazars, parce qu'on a l'impression d'avoir les documents d'époque entre les mains. C'est très vivant.
Ah oui, c'est ce qui est passionnant dans l'approche de Gilbert Rogour. Il ne se base pas seulement sur la presse écrite.
Non.
Il croise ça avec un média qui est en pleine explosion à ce moment-là. La carte photo.
C'est un peu l'Instagram de l'époque.
C'est une super image, oui. Absolument. C'est du reportage quasi instantané fait par des photographes locaux comme Massol et surtout un certain Paul Neuriga.
On va beaucoup parler de lui. Notre mission, du coup, c'est de comprendre le grand écart que fait cette ville en 1925.
Ce grand écart, oui.
D'un côté, il y a le poids du deuil, les cérémonies, le souvenir omniprésent de la guerre.
Et de l'autre ?
De l'autre, une énergie folle, ce que l'article nomme une frénésie de la fête.
C'est ça. Une ville tiraillée entre le recueillement et une envie irrépressible de tourner la page.
Et l'année commence sur une note très solennelle, d'ailleurs.
Oui, on est plutôt du côté du deuil, au début.
En février, le premier grand événement public, c'est la mort de l'évêque de Rodez, Monseigneur de Ligonnès, avec un petit détail étonnant dans l'article.
Ah oui, le lien avec Lamartine.
Exactement, il était son neveu, c'est assez inattendu.
Oui, un lien avec la grande histoire littéraire. Mais ce qui est frappant dans le récit de ses funérailles, tiré du journal de l'Aveyron...
C'est que ce n'est pas juste un événement religieux.
Pas du tout. C'est toute la ville qui s'arrête. Les photos de Paul Neuriga, encore lui, elles montrent un cortège immense.
On voit ça sur les cartes postales.
On voit des foules compactes, les magasins avec les rideaux baissés. C'est un moment de cohésion pour toute la communauté.
Et ce deuil collectif, il prépare un peu le terrain pour le grand événement commémoratif de l'année.
L'inauguration du Monument de la Victoire, le 28 juin.
Oui, sur la place d'Armes. Et là, la description est assez impressionnante. On parle d'une chorale de 300 personnes.
Toutes les écoles présentes, les anciens combattants. C'est l'hommage officiel très codifié de la ville à ses morts.
Très formel.
Et pourtant, la source nous donne un détail qui change tout.
Lequel ?
Une carte postale, envoyée par le sculpteur lui-même, Denis Puech, un enfant du pays, devenu directeur de la Villa Médicis.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il écrit ?
Il envoie une photo de son monument à un ami et il écrit au dos « Cher président et ami, voici la photographie du monument de la victoire que j'ai fait pour ma ville de Rodez. Soyez indulgent pour son archi. »
Et ça s'arrête là ?
La phrase est coupée « archi ».
Mais c'est fou ça !
Ah oui ?
Parce qu'au milieu de toute cette grandeur, cette cérémonie, on a la voix de l'artiste qui...
Qui doute, qui demande de l'indulgence.
C'est très humain, en fait. On sort de la grande histoire avec un grand H pour toucher à une anxiété très personnelle.
C'est exactement ça. Ce n'est plus un bloc de pierre. C'est l'œuvre d'un homme qui a peur du jugement. Et c'est là toute la richesse de ces sources locales.
Je pensais qu'avec ce monument, la ville aurait en quelque sorte localisé son deuil, en se concentrant sur ses propres morts.
On pourrait le croire.
Mais l'article montre que non. Pas du tout. L'année se termine sur une autre grande journée de commémoration, n'est-ce pas ?
En effet, le 10 décembre, c'est la journée de Verdun.
Ah oui, la collecte de fonds national pour l'ossuaire de Douaumont.
C'est ça. Et l'évêque de Verdun en personne vient à Rodez. Il prononce un discours qui a dû être terrible à entendre.
Il rappelle les chiffres.
Oui, 400 000 soldats sacrifiés et 34 000 jamais identifiés.
C'est glaçant. Donc on voit bien cette double échelle, Rodez... pleure ses enfants, mais elle se sent aussi complètement partie prenante du traumatisme national. Le deuil n'est pas encore classé, il se construit.
C'est un poids énorme. Et pourtant, c'est là que le grand écart devient saisissant.
C'est le moins qu'on puisse dire. On a l'impression que la ville ritualise son deuil d'une main, et de l'autre, elle cherche désespérément à faire la fête. Il y a cette citation incroyable du Courrier de l'Aveyron.
De juillet, oui.
Le journaliste qui se lamente. Plus de fête. Ne verra-t-on point renaître les beaux jours des fêtes de Rodez ? On dirait un appel au secours.
Et c'est un appel qui est entendu 5 sur 5. C'est ça qui est fascinant.
C'est presque immédiat, la réaction.
On a l'impression que cet article a été une étincelle. Une semaine plus tard, le même journal annonce, triomphant, que des comités des fêtes se créent partout.
Dans tous les quartiers.
Le Faubourg, la Cité, Saint-Cyrice. C'est une véritable éruption de vie. On lance des souscriptions, on organise une course cycliste de 120 km.
Le désir était là, latent. Il fallait juste une petite poussée.
Exactement. Et ça a explosé de manière très organisée, tout d'un coup.
Et alors, le point culminant de cette frénésie, comme l'appelle l'auteur?
Ah oui, la grande fête du quartier de la Cité fin août.
Et là encore, les cartes photos de Nouriga sont des témoignages précieux. Qu'est-ce qu'on y voit?
Ah, on y voit une marée humaine. Les rues sont noires de monde.
C'est ça, les gens en habit du dimanche, les guirlandes de lampions.
C'est l'image d'une communauté qui reprend possession de son espace. Mais l'article de presse va plus loin. Il décrit le clou du spectacle.
Le numéro musical.
Un numéro pour le moins créatif, oui. Un groupe baptisé les Ouled Bendao.
Les Ouled Bendao. La description du journal est assez savoureuse, non?
Ah, et les collecteurs. Ils parlent de 25 Arabes, nés pour la plupart dans les rues de Rodez.
C'est incroyable.
C'est du pur théâtre de rue. Une parodie gentiment exotique, avec des costumes, des danses inventées.
C'est un peu caricatural, bien sûr.
Oui, ça reflète les clichés de l'époque, mais ça montre surtout une immense envie de s'amuser, de rire de tout.
Et la dérision va encore plus loin.
Ah oui, avec l'élection?
L'élection d'un président de la République libre de la cité. On le voit sur les photos avec son haut de forme, son écharpe.
On sent ce besoin de ne plus rien prendre au sérieux après des années si lourdes.
C'est exactement ça.
Et ce n'est pas anecdotique, ça. C'est un phénomène sociologique très puissant. Ces rues qui voyaient passer les soldats, puis les cortèges funèbres,
oui,
redeviennent des lieux de joie, de lien social.
C'est une forme de résilience populaire. C'est la communauté qui se dit à elle-même, collectivement, on est encore vivant et on va le célébrer bruyamment.
On a donc ces deux extrêmes qui cohabitent, les mémoriaux solennels et ces fêtes de quartier presque carnavalesques.
Et ce qui est formidable dans la source de Gilbert Régour, c'est qu'elle nous montre comment tout ça est documenté. On en revient toujours à lui.
À notre photographe, Paul Noyriga. Il est vraiment le fil rouge de cette année.
Il est le témoin central. C'est son objectif qui nous permet de voir ce grand écart.
Il est là pour les funérailles de l'évêque. Et il est au cœur de la fête de la cité. Il couvre tout le spectre de la vie, du plus sacré au plus profane.
Et le sacré occupe une place importante cette année-là.
Très importante, oui.
Au-delà des funérailles, il y a l'arrivée du nouvel évêque, Monseigneur Chaliot, en août. Et puis, il y a cet événement qui semble démesuré pour une ville comme Rodez.
Vous pensez au rassemblement de les Ligues des catholiques du Rouergue?
Oui, en septembre. Les chiffres sont fous. 20 000 personnes.
20 000 personnes présidées par une figure nationale, le général de Castelnau. Ça montre la capacité de mobilisation de l'Église, qui reste une force qui structure la société.
Absolument.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article met ça en regard d'événements plus intimes.
Comme l'histoire de cette chapelle de l'institution Saint-Joseph.
Exactement. En janvier, on célèbre son cinquantenaire. C'est un événement beaucoup plus local, mais le journal en parle avec une précision.
Il donne même les dimensions.
Oui, 41,20 m de long, 17,50 m de haut. Et ce qui rend cette mention fascinante, c'est ce que ce bâtiment est devenu aujourd'hui.
Oui, l'article explique qu'elle a été ravagée par un incendie en 2007. On aurait pu croire que c'était la fin.
Une ruine de plus. Mais au lieu de ça, la communauté l'a transformée en espace culturel.
C'est une très belle métaphore.
C'est une métaphore parfaite de la résilience de la ville. Un lieu de foi est devenu un lieu de culture. Mais il est resté un point de rassemblement.
Et la culture n'est pas en reste en 1925. Dès janvier, la Lyre Ruthénoise, l'orchestre local,
oui, au théâtre municipal,
donne un concert qui affiche complet 3 soirs de suite. La soif de musique est aussi forte que la soif de fête.
Et c'est là, en fait, que la boucle est bouclée, si on peut dire.
Comment ça?
Ben, qu'est-ce qui fait le lien entre un concert, un rassemblement religieux, une fête de quartier?
C'est la façon dont ils sont immortalisés.
C'est la photo. Et c'est Noyriga. Il est au centre de cette nouvelle ère médiatique. L'année se termine d'ailleurs par un geste qui consacre son rôle.
Le soir du 24 décembre.
Exactement. Il n'est pas en famille. Il organise une exposition de son travail dans ses ateliers. Le journal local publie même une petite annonce pour inviter le public.
Il n'est plus juste un artisan qui vend des cartes postales. Il se voit comme un artiste, un chroniqueur qui offre à la ville le miroir de sa propre année.
C'est la naissance du photojournalisme local. La carte photo n'est plus un simple souvenir, elle devient le moyen de raconter la vie d'une cité presque en temps réel.
Alors si on prend un peu de recul, cette année 1925 à Rodez, c'est vraiment une année de grand écart permanent.
C'est le mot.
On passe des processions funèbres au défilé festif, du souvenir des morts à une célébration presque exubérante de la vie. C'est un instantané incroyablement riche de la France de l'entre-deux-guerres.
Tout à fait. Et ça nous rappelle pourquoi ces sources locales, cet article méticuleux de Gilbert Regour, sont si précieuses.
On n'est plus dans les grandes généralités des manuels d'histoire.
Non, on est dans le concret, dans le quotidien. On voit comment les grandes tendances nationales, le deuil, la laïcité, la reprise, sont vécues, sont négociées à l'échelle d'une rue, d'une communauté. C'est une histoire beaucoup plus humaine.
Pour finir, il y a une dernière question que soulève l'article et qui m'a interpellée.
Allez-y.
Gilbert Régourard note que Paul Noriega a photographié les cérémonies, les fêtes, les processions, mais pas le sport.
C'est une observation très juste.
Pour tout, la presse écrite parlait de foot, de rugby, de cyclisme. Mais visiblement, ces événements ne méritaient pas une carte photo.
Non. Le sport est populaire, mais il n'a pas encore acquis le prestige, la dignité d'être immortalisé comme un événement important de la vie de la cité. Cette hiérarchie est fascinante.
Et ça laisse songeur. Si un historien en 100 ans regardait nos photos ou nos publications sur les réseaux sociaux, que conclurait-il sur nos priorités ? Sur ce que notre société choisit de montrer, d'immortaliser, et sur tout ce qu'elle laisse, consciemment ou non, hors du cadre.
C'est une excellente question pour la suite.